Les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni par le langage, ni par les coutumes, car ils n'habitent pas de ville qui leur soit propre. Ils n'emploient pas quelque dialecte extraordinaire. Leur genre de vie n'a rien de singulier. Leur doctrine n'a pas été découverte par l'imagination ou par les rêveries d'esprits inquiets. Ils ne se font pas, comme tant d'autres, les champions d'une doctrine d'origine humaine. Ils habitent les cités grecques et les cités barbares, suivant le destin de chacun. Ils se conforment aux usages locaux pour leurs vêtements, la nourriture et le reste de l'existence, tout en manifestant les lois extraordinaires et vraiment paradoxales de leur manière de vivre. Ils résident chacun dans sa propre patrie, mais comme des étrangers domiciliés. Ils s'acquittent de tous leurs devoirs de citoyens et supportent toutes les charges comme des étrangers. Toute terre étrangère leur est une patrie, et toute patrie leur est une terre étrangère. Ils se marient comme tout le monde, ils ont des enfants, mais ils n'abandonnent pas leur nouveau-né. Ils prennent place à une table commune, mais qui n'est pas une table ordinaire. Ils sont dans la chair, mais ils ne vivent pas selon la chair. Ils passent leur vie sur la terre, mais ils sont citoyens du ciel. Chers frères et sœurs, vous aurez sans doute reconnu quelques lignes d'un célèbre écrit antique, probablement rédigé à la fin du IIe siècle après Jésus-Christ et adressé à un certain Diognète. Je vous invite d'ailleurs à lire l'intégralité de ce texte que vous trouverez sur le site internet dédié au synode diocésain en cours. Pourquoi vous citez largement cet écrit à Diognète ? Parce qu'il me semble qu'il n'a pas pris une ride et pourrait nous être adressé tout aussi bien qu'à son destinataire original. Mais surtout, les textes de la parole entendus ce matin, ainsi que le contexte ecclésial et social particulier que nous connaissons en ce moment, m'apparaissent comme faire écho à ce que Diognète a pu lire en son temps. Ils sont dans la chair, mais ils ne vivent pas selon la chair. Cette affirmation rejoint les débats qui agitent les premières communautés chrétiennes comme celle d'Antioche. D'un côté, des gens qui prétendent qu'on ne peut devenir chrétien et surtout qu'on ne peut pas être sauvé sans s'inscrire dans la ritualité traditionnelle juive, donc pour les hommes, sans être circoncis. De l'autre, les frères, venus du judaïsme comme du paganisme, qui défendent moins les marques superficielles d'attachement à l'Alliance que la profondeur d'une conversion personnelle et collective que Paul désignera comme la circoncision du cœur. Pour trancher la question, si je peux m'exprimer ainsi, il est décidé de s'en remettre aux apôtres et aux anciens qui constituent l'autorité légitime car choisie par Dieu. Il est intéressant d'observer les premiers pas de l'Église et la manière dont la gouvernance y est assurée. De fait, ce sont les hommes choisis par Jésus lui-même et leurs proches collaborateurs qui sont chargés de rendre à tous le service du discernement de ce qui est juste ou pas dans les pratiques de l'Église primitive. Mutatis mutandis, nous retrouvons là le ministère des évêques, successeurs des apôtres, et celui des prêtres, du grec presbyteroi, c'est-à-dire ancien. Quand le pape François parle de lutter contre le cléricalisme, contre tous les abus de pouvoir possibles et imaginables dans notre Église, il ne faut pas, bien sûr, comprendre ces paroles comme des remises en cause du ministère et de l'autorité apostolique, mais les recevoir comme un appel à faire de l'autorité un véritable ministère, un ministerium au sens étymologique, donc un service qui vise le bien de tous et de chacun. La décision des apôtres et des anciens s'inscrit doublement dans ce sens. Elle est d'abord prise, notons-le, avec toute l'Église, à l'unanimité, ce qui signifie que l'exercice de l'autorité ne s'accomplit jamais de façon solitaire, mais en prenant avis, au moins, auprès du peuple de Dieu, de manière synodale, oserais-je dire. Par ailleurs, la décision montre que le plus important est davantage de s'abstenir des pratiques païennes concernant la chair, à tous les sens du terme, que de se retrancher volontairement un bout de chair pour se retrancher du monde idolâtre. Nous le savons bien, par exemple, lorsque nous accueillons des catéchumènes dans nos communautés paroissiales, nous devons leur permettre de gravir un à un les échelons de l'échelle de Jacob et ne pas leur imposer de grimper au ciel trop brusquement. L'abandon de certaines croyances et de certaines mœurs est déjà en soi un tel défi. Le ministère apostolique est donc un ministère de l'écoute et de la patience. Mais nous ne devons pas perdre de vue que ce service est avant tout d'ordre spirituel. C'est bien le sens de l'expression qui peut prêter à sourire si nous ne la prenons pas au pied de la lettre. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé. Toute décision dans l'Église est le fruit de la prière. Enfin, espérons-le. Ils passent leur vie sur la terre, mais ils sont citoyens du ciel. Si nous chantons parfois « Notre cité se trouve dans les cieux », en citant par là un verset de l'épître de saint Paul aux Philippiens, n'oublions pas que nous sommes également des citoyens d'une cité terrestre, où nous devons nous acquitter de tous nos devoirs. Je pense en particulier, pour les majeurs parmi nous, au devoir de voter, en ce jour où nous sommes appelés à désigner les députés censés représenter tous les Français au Parlement européen de Strasbourg. Pour nous éclairer, souvenons-nous d'une note doctrinale de la Congrégation pour la doctrine de la foi concernant certaines questions sur l'engagement et le comportement des catholiques dans la vie politique, note signée en 2002 par un certain Joseph Ratzinger. Elle rappelle quelques principes fondamentaux, en particulier la nécessité pour les catholiques de participer à la vie sociale et politique de leur pays selon la conception de la personne et du bien commun qu'ils pensent humainement vrai et juste, sans résignation et sans omission. À ce titre, il faut lire la note intégralement. Bien sûr, il est question de protéger le droit primordial à la vie depuis sa conception jusqu'à sa fin naturelle. Bien sûr, est rappelé le devoir de respecter et de protéger les droits de l'embryon humain. Bien sûr, la note appelle à préserver la protection et la promotion de la famille, à garantir la liberté d'éducation des enfants. Mais elle insiste aussi sur la protection sociale des mineurs et la libération des victimes des formes modernes d'esclavage, sur le droit à la liberté religieuse et le développement dans le sens d'une économie qui soit au service de la personne et du bien commun, dans le respect de la justice sociale, du principe de solidarité humaine et de la subsidiarité. Elle parle enfin de paix. Et rappelons-nous que c'est un des enjeux principaux du vote de ce jour. S'il fallait actualiser cette note, gageons que son auteur n'oublierait pas d'évoquer le souci pour une écologie intégrale, mêlant le combat contre la pauvreté et pour la dignité des exclus avec la préservation de la nature. Mais plutôt qu'une liste de principes non négociables, la parole de Dieu nous indique la meilleure façon d'être dans le monde sans être du monde. Dans la première lecture, comme dans l'Évangile, l'Esprit Saint est signalé comme notre partenaire principal dans le discernement. C'est donc lui qu'il nous faut prier pour que nous gardions la parole de Jésus, qui est celle du Père et qui trouve son plus haut lieu d'expression sur la croix. C'est donc lui, l'Esprit Saint, qu'il nous faut prier pour que nous gardions la paix et la joie de Jésus, une paix et une joie qui nous rendent déjà présents un ciel nouveau et une terre nouvelle. Viens, Esprit Saint, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière pour nous permettre d'être sur terre, une demeure pour Dieu. Amen.